colloque. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Merci beaucoup, merci de votre invitation et de me donner l'occasion de présenter ce qui est finalement une deuxième étude de cas après Marguerite ce matin, tout à fait différent, mais sur l'intérêt que peut avoir parfois la micro-histoire ou l'étude de cas très resserrée, évidemment si on a ou quand on a fait une étude plus large au-delà. Parce que là, je vais vous parler du cas de 6 viols commis en Indochine française. Donc numériquement, on est sur un tout petit effectif. Plusieurs choses, ça soulève évidemment la question du nombre, mais enfin, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, je ne vais pas la reprendre, mais la difficulté de dénombrer. 6 cas, mais qui permettent de voir de manière précise quelles peuvent être les différentes attitudes, aussi bien des auteurs de ces crimes, en l'occurrence des soldats de l'armée impériale japonaise, que des autorités françaises face à ce type de crime, et éventuellement des victimes aussi. Donc voir derrière ces viols en temps de guerre des situations qui sont différentes. Et le troisième point, dans le cas particulier des viols commis donc en mars 1945 en Indochine française, c'est qu'on va voir se s'entrecroiser deux contextes, qui est un contexte de guerre et un contexte colonial, et qui ne sont pas pour rien dans le déroulement même de ces procès et dans la manière dont vont être jugés ces criminels de guerre japonais, avec une différence que je pointerai sur ce qu'il en est en Asie, dans le théâtre Asie-Pacifique et en Europe. Donc je ne vais pas retracer la totalité de l'histoire de l'Indochine française pendant la Seconde Guerre mondiale, mais quand même deux mots, parce que vous n'en êtes peut-être pas forcément toutes et tous des spécialistes. L'Indochine française a cette particularité, et c'est que c'est le dernier territoire, finalement, où continue la révolution nationale du maréchal Pétain et du régime de Vichy, alors que la guerre n'est pas terminée, mais la France est très largement libérée, que Vichy est à Sigmaringen en Allemagne, enfin, Pétain et Laval et d'autres sont à Sigmaringen en Allemagne. Donc la révolution nationale et le régime de Vichy n'existent plus, sauf en Indochine, où le gouverneur Decoux continue. Alors qu'est-ce que ça fait de l'Indochine du point de vue de ses relations avec le Japon? Un allié, c'est un peu difficile à dire. On va dire que c'est un allié sous tutelle. En fait, dès juin 1940, le Japon va exercer une forte pression sur le régime de Vichy et sur l'Indochine française, obtenant par la pression et la négociation la possibilité d'avoir des troupes qui stationnent en Indochine, 25 000 hommes au début, un peu plus par la suite. Et à partir de juillet 1941, les accords d'Arlan-Kato, l'Indochine fait finalement partie de ce que les Japonais appellent la sphère de coprospérité asiatique, prospérité asiatique, excusez-moi, pas de co. Donc, est vraiment dans l'ère d'influence et de domination japonaise, avec des passages de troupes, du stationnement, même si ça reste un territoire, une colonie française, et où la présence coloniale reste là jusqu'en mars 1945. Que se passe-t-il en mars 1945 hein? Vous voyez sur cette carte des opérations qui, elle, date du février 1945, les territoires qui sont encore sous contrôle japonais. Vous voyez l'Indochine française qui est en rose et les îles Philippines. Les îles Philippines, en fait, vont être reprises par les troupes alliées. Et le Japon craint, c'est plus qu'une crainte, ça devient une réalité stratégique, que les territoires qu'il contrôle encore en Indonésie, à l'époque néerlandaise, Malaisie, et le Japon n'aient plus aucun lien les uns avec les autres, l'Indochine étant finalement ce passage vers le sud de la péninsule du sud-est asiatique et vers les Indes néerlandaises. Donc une question stratégique qui fait que le Japon, à ce moment-là, veut un contrôle absolu de l'Indochine et qu'il ne s'agit plus simplement d'avoir un allié sous tutelle, mais bien de prendre le contrôle. Donc le 9 mars 1945, les troupes japonaises qui sont déjà présentes en Indochine dépose un ultimatum auprès des autorités françaises, mais en fait qui n'est qu'un prétexte. Quelques heures après, les principales places sont prises par les Japonais. Les responsables militaires ou civils coloniaux sont mises aux arrêts sans qu'il y ait réellement de résistance, sauf à l'extrême nord du territoire. Vous voyez Langson et Hajiang, ce dont je vais vous parler se passe à Hajiang, à la frontière chinoise, où ces deux places, les militaires français résistent et le payent très durement de leur vie. Je vais y revenir dans un instant. Donc, les faits dont je vais vous parler ont lieu justement, les viols dont je vais vous parler, ont lieu dans le territoire de Hajiang, celui qui est le plus au nord, et deux villages, petites villes, bourgs voisins, qui s'appellent Langvan et Huang Sophie. Donc ces faits nous sont connus pour quelles raisons? Parce que parmi l'ensemble des opérations, ils auraient pu passer complètement à côté de toute source d'information. Parce qu'ils vont être l'objet, après la guerre, d'une enquête que le juge d'instruction du tribunal permanent français de Saïgon, après 1945, et en l'occurrence en 1947, va les qualifier de meurtre et viol, je cite, accompli à l'occasion ou sous prétexte de l'état de guerre, n'étant pas justifié par les lois et coutumes de la guerre. Donc, en langage courant, de crimes de guerre. Les auteurs de ces crimes, trois d'entre eux sont retrouvés. Il s'agit de trois officiers japonais. Alors, en deux mots, j'y reviendrai, ils ne sont pas forcément arrêtés et prisonniers en Indochine. Hein. D'ailleurs, deux d'entre eux sont au Japon et donc sont renvoyés en Indochine pour y être jugés. Ils sont d'abord arrêtés au Japon et envoyés en Indochine. Ils sont jugés. Le capitaine Furukawa est condamné le 17 février 1947 et fusillé en août 1947. Et deux autres officiers, le commandant Sawano et le capitaine Imazu, sont eux jugés en octobre 1949 et fusillés en mai 1950. 5 ans après la fin donc de la Seconde Guerre mondiale, il y a encore des exécutions de criminels de guerre japonais à Saïgon. Parmi les deux autres accusés, ils étaient 5 en tout, un est acquitté parce qu'il y avait erreur sur la personne. Je ne reviens pas sur tous les problèmes de transformation des noms japonais, des erreurs de transcription infinies dans les différentes listes, mais en voilà un. Et l'autre, par contre, est condamné à mort par contumace, puisqu'on n'est pas arrivé à mettre la main dessus. Ils sont jugés par un tribunal militaire permanent, comme dans chaque région militaire en France et dans l'Empire française. Il y en a un pour juger soit ses propres militaires, les militaires de l'armée française, en cas de désobéissance, vol, désertion, trafic, mais aussi les crimes de guerre commis par l'ennemi. Voilà où se déroule, où siège le tribunal militaire, dans le palais de justice de Saïgon, vous voyez en bas à gauche, au-dessus la prison centrale de Saïgon, où sont détenus les inculpés criminels de guerre japonais qui ont été donc expédiés à Saïgon, en général du Japon, mais parfois ils ont pu être détenus par les Américains ou les Australiens ou les Chinois. Et puis à droite, ce n'est pas le procès qui nous intéresse, mais un autre procès, celui des bourreaux de Langson, qui est le principal crime de guerre probablement commis et jugé, eux aussi condamnés à mort en janvier 50 et fusillés un an plus tard. Donc vous voyez là à l'intérieur une photographie de l'intérieur du tribunal militaire. Donc quatre points. D'abord, quelle juridiction et pourquoi finalement va-t-on ici juger des viols? Je vais vous montrer dans un instant que ça n'allait pas de soi. Deuxièmement, quels sont les points communs aux six cas dont je vais vous parler et leurs différences? Et enfin, qu'est-ce qu'on peut dire en confrontant ces points communs et ces différences du viol comme violence de guerre en contexte colonial? Alors, quelle juridiction? Ce procès, n'est pas le seul. Il fait partie de 27 procès du tribunal militaire permanent de Saïgon qui s'étalent d'octobre 1946 à mars 1950. La plus grande partie d'entre eux concerne des officiers de la Kempeitai, qu'on traduit généralement en français par Gestapo japonaise. En fait, c'est la police militaire, la gendarmerie militaire de l'armée impériale japonaise, qui, à partir de mars 1949, donc du coup de force, a pratiqué de manière quasi systématique dans les principales dans les principales sous-préfectures de l'Indochine française, l'arrestation, les mauvais traitements, l'interdiction de soins, la torture, etc. Donc vous avez toute une série de procès tout au long de, de ces années de 1946 à 1950. Il faut savoir que tout à l'heure ont été évoqués les procès de Nuremberg et Tokyo. Les procès de Nuremberg et Tokyo concernent ce qu'on appelait les criminels de rang A, c'est-à-dire coupables de crimes ou de complots contre la paix. Hein. Pour dire vite, les membres des gouvernements, soit du Reich, soit de l'Empire japonais, et des principaux chefs d'état-major, ceux qui sont réellement aux responsabilités au moment de la prise de décision politique. Pour tous les autres, les criminels de rang B ou C, ils étaient renvoyés aux juridictions militaires, en général, de chacun des pays alliés. Et donc vous avez, ici, c'est les T que j'ai mis, hein, des tribunaux. Là, vous faites plus attention au rose ou au bleu, uniquement les petites qui sont disséminées partout, qui sont donc jugées par les tribunaux militaires des pays alliés. Alors, chinois, vous voyez, soviétiques à Khabarovsk, australiens, néerlandais, américains, etc., etc. Et donc, il y a un tribunal à Saïgon qui va devoir juger les crimes de guerre commis en Indochine française, avec cette particularité, c'est qu'ailleurs, ils sont commis sur une période bien plus longue, pour la Chine au moins de 1937 à 1945, pour la plupart des autres pays de 1941 à 1945. Dans le cas français, on est sur une période extrêmement courte qui est de 6 mois, puisque ces crimes ont lieu entre mars et août 1945. Ils sont jugés par le tribunal militaire, alors là, je reviens en arrière, comme sont jugés en France ou en Allemagne par un tribunal militaire français qui a Rastatt, les criminels de guerre allemands. Je vous ai mis les effectifs pour voir qu'évidemment, numériquement, ça n'a rien à voir. Vous avez ici, en gros, 4500 criminels de guerre allemands qui sont poursuivis par les tribunaux militaires en Europe, hein, dont un peu plus d'une centaine seront finalement exécutés, 168 peines de mort et 110 exécutés. Au Japon, concernant les Japonais, il n'y a que 230 personnes poursuivies, mais 26 exécutions. Est-ce que je voulais vous montrer, pour retenir cet aspect-là, et je pense que c'est un élément d'explication qui montre pourquoi les viols sont dans ce cas poursuivis, ce qui fait quand même un taux d'exécution de 11,3% contre, globalement, 2,5% dans le cas des criminels de guerre allemands en France. Donc une différence tout de même notable, même si ce sont sur des effectifs qui sont évidemment différents. Alors, les Français sont évidemment ne sont pas les seuls à juger des criminels de guerre japonais. Au total, 5700 Japonais ont été poursuivis et condamnés par tous ces tribunaux militaires nationaux, devrait-on dire, et 920 furent exécutés. Donc la part des criminels jugés par les Français est relativement faible. Alors, qu'en est-il des viols devant ces juridictions? Les viols sont considérés par le tribunal français comme un des marqueurs de la criminalité de guerre japonaise, quand il s'agit de femmes européennes. Et ça, c'est la première distinction à faire. Juridiquement, les responsabilités des officiers dans les exécutions de prisonniers de guerre suffisaient à les faire condamner. On va voir que ces crimes sont commis avec d'autres crimes. On revient aux quatre. Pillage, incendie, meurtre et viol. Il y a des exécutions de prisonniers de guerre par les Japonais. Cela suffit amplement à les condamner à mort et les faire fusiller. Néanmoins, le choix de la juridiction française est également de prendre en compte les viols comme élément à charge. Mais ce, uniquement dans le cas de femmes européennes. J'y reviendrai. Et ça, c'est une différence majeure entre le théâtre européen et le théâtre Asie-Pacifique. Car en Europe, que ce soit en France dans les tribunaux militaires, à Rastatt dans le tribunal en Allemagne sous contrôle français, ou à Nuremberg, finalement, les viols ne seront pas utilisés comme élément à charge et ne provoqueront pas de condamnation. Pourtant, en 1943, la United Nations War Crimes Commission, qui est mise en place justement pour envisager ce qu'on va faire des criminels de guerre, avait intégré les viols parmi les crimes de guerre qui devaient être poursuivis. Je reprends la phrase dans sa traduction française faite par le gouvernement provisoire de la République, le GPRF, qui, dans la logique de la Commission des Nations Unies, prévoit dans l'ordonnance du 28 août 1944, sont notamment poursuivies les infractions prévues et punies par les articles, je vous passe tous les articles, sauf celui-ci, 332 du Code pénal et l'article 332 du Code pénal à l'époque concerne le viol. Donc il est bien prévu de poursuivre les criminels de guerre allemands en France et en Europe quand ils sont coupables de viol, et les dossiers d'enquête des commissions l'attestent. C'est-à-dire qu'on a des dossiers renseignés sur des viols qui ont été commis par des soldats allemands dans différents points du territoire français. Un article à ce sujet que j'ai écrit doit apparaître dans, je crois, le prochain numéro de 20e siècle, si ce n'est celui d'après. Donc il y a d'une part une décision à la fois politique, diplomatique et juridique de poursuivre les viols, et pourtant ils vont disparaître au fur et à mesure des procédures. Ils ne vont pas apparaître à Nuremberg. Aucun des criminels allemands poursuivis à Nuremberg n'est condamné pour ce motif, n'est même poursuivi pour ce motif. Et sous réserve d'un inventaire exhaustif, mais là, le changement et l'ouverture des archives de la justice militaire vont peut-être nous aider, parce que jusqu'à présent, il était impossible de faire un inventaire exhaustif, puisqu'on ne pouvait faire que des demandes nominatives des dossiers de la justice militaire. Sous réserve de cet inventaire, jusqu'à présent, je n'ai trouvé aucune trace de jugement de criminel de guerre allemand par un tribunal militaire permanent français pour ce motif. Revenons donc aux faits qui sont commis à Anjiang et qui, à l'inverse, justifient des poursuites. Il s'agit donc... Pardon, je reviens à cette carte pour que vous l'ayez sous les yeux. De 6 femmes, en fait, 3 groupes distincts de 2 femmes, 6 en tout, européennes, qui sont capturées par l'armée japonaise lors du coup de force du 9 mars 1947. L'histoire respective de chacun de ces groupes de 2 femmes permet à l'échelle du même événement, le 9 mars 1945 dans la région de Hajiang, d'observer des points communs et des différences. Quels sont ces points communs? Tout d'abord, tous ces viols sont commis par des membres de l'armée japonaise, non pas par soit des supplétifs, soit des civils qui accompagneraient et qui profiteraient de ce contexte. Deuxièmement, ils ont tous lieu, donc, à l'occasion du coup de force réalisé en Indochine française le 9 mars 1945. Je le disais, les 2 principales postes à la frontière de la Chine sont les seuls qui résistent, une résistance limitée à quelques heures, mais qui va se traduire par l'exécution massive de prisonniers de guerre français. 300 à Langson sont mitraillés puis achevés à l'arme blanche, et une centaine dans la région de Hajiang. Troisième point commun, les viols commis ont tous lieu dans un contexte où sont commis également des assassinats massifs de prisonniers. Ce sont donc 2 crimes de guerre simultanés qui se déroulent, l'exécution de prisonniers, qui est considérée et qualifiée par les droits et coutumes de la guerre comme un crime de guerre, et les viols et assassinats de civils, car des assassinats ont également lieu, et donc les 2 seront poursuivis devant le tribunal. Quatrième point, les 3 groupes de 2 femmes sont européennes, à l'exception d'une jeune fille de 15 ans dont la mère figure aussi parmi les victimes, mais dont le père était un officier indochinois, donc qui est métis selon les termes utilisés à cette époque. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres viols, des femmes annamites sont également violées, mais à la différence, et quand on regarde les archives, qu'est-ce qu'on lit dans un rapport sur les crimes japonais après le 9 mars 1945, publié en 1948, résultat d'une enquête sur ces crimes, qu'elles ont été violées en très grand nombre. Donc elles sont ni comptées, ni nommées, contrairement aux femmes européennes. Quelles sont, à l'inverse, les différences que l'on peut observer sur le sort de ces femmes? Donc je reprends les 3 lieux. 2 sont à Hoang, je vais dire pas du tout vietnamien, donc ne m'en veuillez pas. Enfin, peut-être parmi vous, il n'y en a pas non plus des spécialistes non plus. Mais si jamais, je veux bien être corrigé, hein, ça, du coup, je prononcerai bien. À Hoang Soupi, ou Soupi, je ne sais d'ailleurs même pas, 2 sœurs, dont une est enceinte, sont violées le jour de la prise de la ville, le 9 mars, et sont gardées 2 mois comme esclaves sexuelles par les troupes japonaises qui sont présentes. Après 2 mois, les Japonais doivent évacuer ce village pour continuer à combattre en Chine, et elles sont à ce moment-là exécutées, chacune d'une balle dans la nuque. À Lang Van, à l'inverse, après l'exécution du mari, commissaire de Hajiang, donc notable local, le commissaire de Hajiang était en fuite avec sa femme et sa fille, ils sont rattrapés, lui est exécuté, elles sont violées, la mère et la fille, est tuée juste après, en ce qui concerne la mère, la fille blessée et emmenée, violée à nouveau à plusieurs reprises, avant de mourir de mauvais traitements et de l'absence de soins dans les jours qui suivirent. Il faut noter que l'absence de soins est un crime qui revient très régulièrement dans tous les procès, tout ce dont je vous ai parlé, où on va laisser et on va interdire à tout médecin de venir assister les personnes blessées ou victimes de torture. Et donc c'est une accusation récurrente lors de ces procès. À Hajiang, enfin, deux femmes, épouses d'officiers, sont capturées. L'une est violée, mais l'autre est épargnée car elle est enceinte. Toutes les deux sont maltraitées, battues pendant plusieurs jours. Ensuite, elles sont transférées dans la prison de Hajiang, qui est la sous-préfecture de, si on veut, le terme n'est peut-être pas parfait, mais enfin, la principale ville de la région, où elles restent environ deux mois, nourries de deux boules de riz par jour. Et c'est elles qui pourront témoigner lors de l'enquête au coup qui a lieu après la guerre, à l'automne 1945. Première différence, à Hajiang, la grossesse protège une des femmes, alors qu'à Hong Soufi, elle ne fait pas reculer les soldats. Donc déjà, sur la manière dont ces soldats voient ces femmes, mères ou pas, maternité ou pas, on note une différence. Deuxième différence, c'est la présence de témoins et l'usage de viol, finalement, comme forme de torture. On le voit, l'humiliation passe par la dénudation et éventuellement le viol devant des témoins, devant d'autres personnes. Certaines sont dénudées devant d'autres prisonniers, hommes ou femmes, dans un cas devant un tirailleur annamite. Et on oblige ce tirailleur annamite, qui était donc avant dans l'armée coloniale française, à frapper, je cite, ses anciens maîtres, c'est-à-dire les Français ou les Françaises qui sont prisonniers avec lui. Dans un autre cas, les hommes sont également dénudés devant des femmes, mais sans attouchement, alors que les femmes, quand elles sont dénudées, sont victimes d'attouchement. Autre exemple, à l'étage au-dessus de la pièce où le mari est détenu, le viol de sa femme est commis, et chaque fois qu'il essaye d'intervenir pour la défendre, il est évidemment battu. Autre type de différence, non pas parmi les victimes, mais parmi les officiers japonais et leur rôle lors du déroulement de ces violences. À Hong Soufi, le capitaine Furukawa trouve les deux Françaises avec son revolver. Il leur ordonne de se déshabiller et fait descendre la plus jeune, qui est âgée de 15 ans, puis viole l'autre. Ensuite, il les fait dîner à sa table le soir même. Puis il promet à l'une d'entre elles de faire parvenir un courrier au mari, la plus âgée. Seulement dans les jours qui suivent, ces deux femmes sont logées avec le reste de la troupe et violées par le reste de la troupe, qui sont des simples soldats. Et on voit là vraiment une forme de rôle de, à la fois... Du proxénète et dans son imaginaire, qui est à la fois un protecteur et un violeur, c'est-à-dire qu'il les viole, il en dispose comme il veut, il les donne à ses soldats, mais en même temps, il les invite à déjeuner ou à dîner, il utilise un courrier. Donc, dans cette double fonction, finalement, ou ces deux facettes de ce que peut être, ou de ce que, oui, peut être considéré un proxénète. À Hajiang, au contraire, il n'y a aucune mention d'officier présent. Une autre femme déclare même que les agresseurs, simples soldats, craignaient l'arrivée d'un officier. Hajiang, je vous rappelle, est la ville la plus importante. Ceci explique peut-être cela. Et que grâce à ses cris, elle échappa au viol. Donc là, un système de défense qui lui permet d'échapper au viol en faisant appel ou en faisant croire qu'un officier pourrait intervenir. Donc on voit deux contextes à quelques dizaines de kilomètres l'un de l'autre, où dans un cas, les officiers organisent les viols et la mise en esclavage sexuel, et à l'inverse, dans l'autre cas, les officiers semblent s'y opposer, les empêcher, et leur arrivée met fin aux violences sexuelles. Une fois dans les prisons à Hajiang, les Françaises semblent ne plus subir de viols, contrairement aux femmes détenues dans les plus petits villages. Je dis « semblent » parce qu'on a leur témoignage et elles ne parlent pas de ces viols-là alors qu'elles parlent des autres viols, donc on peut imaginez qu'elles n'ont effectivement plus été violées au moment de leur captivité. Donc, qu'est-ce qu'il en est de ces violences de guerre et du contexte colonial? Ce qui saute aux yeux quand on travaille sur les violences sexuelles, et quand on l'a fait comme moi également dans le théâtre européen, c'est justement le poids de la dimension raciale. Le viol sur les Européennes est simultané à la prise du contrôle de l'Indochine et de l'exclusion du colonisateur français qui est sur place. Il faut savoir que dans la politique japonaise au cours du conflit Asie-Pacifique, il y aura toujours un peu ces deux facettes. D'un côté, on vient libérer les peuples d'Asie des puissances coloniales occidentales, mais de l'autre côté, cette affirmation de propagande, finalement, ne sera menée jamais jusqu'au bout, puisque le système mis en place, en général, ne permet pas de promouvoir les éventuelles élites locales, et le traitement infligé aux populations des différents pays n'ont rien envié à ce qu'elles pouvaient... Non, c'est plutôt l'inverse. Ce qu'il y avait avant n'a rien envié à ce que les Japonais mettent en place. Mais ça reste important, et ça reste encore important aujourd'hui, quand vous visitez le fameux musée Yusukan, au sanctuaire de Yasukuni, vous savez, celui qui fait l'enjeu d'une polémique chaque année quand un ministre se rend sur place, la première chose que vous voyez dans l'entrée, c'est la carte de l'expansion coloniale occidentale. Et afin de montrer que le Japon, finalement, se retrouve comme ça, encerclé avant la guerre, et donc c'est la justification du militarisme japonais par les puissances occidentales. Donc ce discours est présent pendant la guerre, depuis, avant, mais il apparaît là de manière assez évidente, en tout cas, que c'est également utilisé au moment de la prise de contrôle de l'Indochine française. D'ailleurs, les Japonais poussent, au lendemain du coup de force du 9 mars 1945, le Vietnam, le Cambodge et le Laos à proclamer leur indépendance. Pendant ces six mois, ce n'est pas très long vu la durée de la guerre en Asie-Pacifique, mais la domination japonaise va être extrêmement violente vis-à-vis des colons. Exécution de civils, détention en camp. Il y a une réelle volonté d'éradiquer la société coloniale. Pour vous donner quelques exemples, les Français sont tous astreints à la résidence obligatoire, soumis au couvre-feu, ne doivent pas se regrouper à plus de 3 personnes. Il leur est interdit de fermer à clé leur domicile et de posséder appareils photo, radio, machines à écrire et armes qui doivent tous être remis aux autorités sous peine de graves sanctions. On a des dizaines de personnes, voire des centaines de personnes qui vont être arrêtées dans les prisons des différentes kempeitai un peu partout en Indochine française. Donc on le voit, cette dimension est essentielle, hein, d'éradiquer les élites coloniales, et le viol des femmes blanches en est une manifestation sans aucun doute. Pourquoi et comment j'en arrive à dire ça? Parce qu'on a réellement, je crois là, un effet de miroir, finalement, sur quelle est la place de la femme blanche dans l'imaginaire colonial ou de la femme indigène, et que toute relation entre une femme blanche et un indigène est totalement subversive vis-à-vis de la société coloniale. Et donc, violer les femmes blanches pour les soldats japonais, devant témoins et devant des alamites, c'est une manière de montrer que cette dimension sacrée de la société coloniale, qui ne doit en aucun cas être subvertie, est ici foulée aux pieds. D'ailleurs, le commandant Sawano, le plus gradé accusé des crimes commis à Hajiang, déclare lors de l'enquête, aurait déclaré, c'est la victime qui en témoigne, qu'il violait les femmes européennes parce que les femmes anamites n'étaient pas jolies. Et donc il y a cet argument de la beauté, de l'exotisme inversé, ce n'est plus l'exotisme de la femme indigène, mais c'est l'exotisme de la femme blanche qui est ici mobilisé. Donc ces procès et le fait qu'ils aient lieu uniquement en Indochine française pour les cas de viol sont une manière de relégitimation de la puissance coloniale sur place. Il serait inconcevable de ne pas punir des viols qui ont été commis sur des femmes européennes. Cependant, ils sont étalés sur 4 années, vous l'avez noté, 46-1950, et même sans être un spécialiste du sujet, vous voyez bien que les priorités ne sont plus l'occupation japonaise qui a duré jusqu'en 1945, mais la guerre d'Indochine qui est en train de se faire. Hein. Et donc, petit à petit, le désintérêt, alors, en France, en métropole, est total. Je n'ai trouvé aucune mention dans la presse de ces procès, de ces condamnations en France. C'est présent dans la presse indochinoise. C'est présent dans la presse australienne, américaine, mais nulle part ici. Donc il y a évidemment un désintérêt total. Violence de guerre ou violence en temps de guerre. Ici, les viols sont commis dans un contexte de non-respect absolu des lois et coutumes de la guerre. Le coup de force a lieu alors que les officiers japonais étaient invités à dîner avec les représentants français des autorités du lieu. C'est-à-dire qu'en fait, les officiers vont dans la famille du commandant de la place, et c'est au moment entre, non pas le fromage et le dessert, mais l'apéritif et les hors d'œuvre, que le coup de force a lieu. Et donc, ils sont capturés chez eux. Là aussi, ça renvoie à un autre élément important de l'imaginaire occidental sur la sournoiserie des Asiatiques. Il n'empêche que ça se déroule à ce moment-là comme ça. Donc, les représentants des autorités sont arrêtés et utilisés comme boucliers humains contre les soldats qui résistent exceptionnellement dans ces deux places, y compris une petite fille âgée de 6 mois d'un des officiers qui résistait et que les soldats japonais mettent devant pour essayer de s'emparer, d'amener à la reddition les soldats qui résistent. Il y a du pillage, des vols. Une des femmes qui est violée à Huang Sufi avait un sac qui contenait 300 piastres. Les blessés sont torturés. Les soins interdits, je l'ai déjà dit. De nombreuses décapitations ont lieu sur les prisonniers. Donc là, on est vraiment dans une situation où le viol ne se distingue pas d'autres crimes commis, mais fait partie de cet ensemble de terrorisation absolue de l'adversaire, dans un cas. Mais dans l'autre, c'est également une violence durable d'occupation, où ces femmes sont mises en esclavage sexuel. Ce n'est pas le moment de l'occupation, ce n'est pas simplement l'éventuelle perte de contrôle de certains soldats par les officiers, mais un système qui est en place et qui va durer 2 mois jusqu'au départ et à l'exécution des deux femmes pour pas qu'elles puissent éventuellement témoigner par la suite. On est là, je crois, et voilà la carte dont je vous parlais tout à l'heure, dans un exemple à la fois de viol au moment de la conquête, de terrorisation du nouveau territoire que l'on met sous son contrôle, mais également dans les formes les plus extrêmes du fameux système de Comfort Station, qui est ici mis en place par des soldats, qui s'emparent des femmes européennes et de femmes asiatiques, dont on ne sait rien finalement, mais qui sont très probablement là, et qui créent une station d'esclavage sexuel, de viol collectif, au nord de la frontière. Il ne figure pas sur cette carte. Sur cette carte figure, c'est le résultat de l'enquête menée par plusieurs associations et qui est centralisée par le Women's Active Museum on War and Peace, qui se trouve à Tokyo, de tous les témoignages sources archives. Les différences de couleurs ne témoignent pas l'importance d'une de ces stations de réconfort, mais de la nature des sources, archives japonaises, archives alliées, témoignages, etc., etc. On voit assez peu de choses sur l'Indochine, ce qui est normal, puisque, je vous le rappelle, la durée de l'occupation réelle est particulièrement courte. Pour conclure, une étude comme celle-ci montre à quel point la violence sexuelle doit aussi être envisagée dans le contexte de son déroulement. Le geste de la violence ne suffit pas à définir le rôle de la violence. Le fait qu'il y ait pénétration avec violence, pénétration forcée dans ce cas-là, ici sans objet, parfois ça peut être avec objet, surtout quand, je rebondis sur une des questions qui avait été abordée tout à l'heure à propos des viols d'hommes, mais ici, dans des cas de viol-torture, mais le geste ne suffit pas. Ici, on a 3 cas différents qui se trouvent au croisement de la violence d'une guerre de conquête, de la torture et de la soumission d'un adversaire, avec l'esclavage sexuel organisé, même à l'échelle d'un tout petit village comme celui de Huang Sufi. Du point de vue des autorités françaises, les viols commis en temps de guerre sont bien perçus comme des crimes de guerre quand ils ont eu lieu en Asie et sur des femmes européennes. Ils n'ont pas été poursuivis en tant que tels lors des procès de Nuremberg en France ou en France par les tribunaux militaires. Et les viols dans le théâtre européen ne sont pas tabous, comme on l'entend souvent. Ils sont dits, discutés, souvent et le plus souvent quand il s'agit évidemment de dénoncer des viols commis par l'ennemi, comme ce fut, et vous connaissez le cas des atrocités allemandes, je mets volontairement des guillemets, c'est une expression de l'époque et étudiée par John Horn lors d'une invasion du nord de la France. Mais ici, on est dans un cas différent où le jugement, ce n'est pas une dénonciation générale, c'est un jugement au cas par cas des viols qui sont commis dans un objectif de reconstruction coloniale. Voilà, je voulais juste terminer par ces 2 affiches qui montrent comment la libération de la France est prolongée pour finalement ce qui est une sorte de ici libération de l'Indochine, mais qui est de fait une reconquête parce que en 6 mois, les îles coloniales ont disparu, les premiers à débarquer, ce sont les Britanniques, et quand les Français arrivent, il s'agit effectivement de reprendre le contrôle d'un territoire qui leur échappe déjà largement et qui ne cessera finalement de leur échapper, même s'ils arrivent pendant quelques mois ou quelques années à assurer un contrôle, surtout dans la partie du sud.